Vous écoutez, on lit pour vous.
Une neutralité bien interprétée pour une laïcité équilibrée, un texte de Marco Jean, paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. À la loi sur la laïcité de l'État, ou loi 21, contestée devant les tribunaux, s'ajoutera incessamment une loi sur la laïcité dans les écoles. Les discussions à ce sujet s'en trouveront encore une fois alimentées. Bien qu'il soit normal et sain que l'on débatte de sujets aussi importants, il n'empêche qu'un désir d'entente et un goût de passer à autre chose, pour un temps du moins, se font sentir. Or, les désaccords émanent essentiellement de l'articulation entre la liberté de conscience et de religion des personnes, LCR, et la neutralité étatique, d'où le besoin de bien cerner ce concept. La neutralité comme moyen, non comme fin. On s'entend généralement pour dire que la séparation et la neutralité de l'État sont les principes qui rendent possible un traitement égalitaire en matière de LCR, celui-ci apparaissant du coup comme le principe directeur de la laïcité. Déjà, avec cette définition, il est possible de mieux comprendre des dysfonctionnements, réels ou possibles, au sein des modes de régulation du pluralisme culturel et religieux. Ainsi, le modèle canadien pêche en négligeant les conditions de possibilité d'une égale attribution de la LCR que sont la neutralité et la séparation étatique. Inversement, le modèle français se trompe en faisant comme si la neutralité était une fin en soi, ce qui vient légitimer d'inutiles restrictions individuelles. Rappelons que le tout début de l'article 1 de la loi française concernant la séparation des Églises et de l'État de 1905 est on ne peut plus clair. La République assure la liberté de conscience. Une neutralité bien comprise. Mais qu'est-ce fondamentalement qu'un État neutre? C'est d'abord un État qui s'exprimera à l'aide d'un langage séculier, dépourvu de connotations religieuses ou métaphysiques. En s'abstenant de recourir dans ses déclarations et ses textes officiels à des croyances et des notions non partagées, l'État respectera tous les individus, autant les non-croyants que ceux qui adoptent une religion ou une forme de spiritualité différente. Cela fera en sorte qu'aucune raison religieuse ne sera invoquée pour formuler et justifier une loi ou une décision politique. On évitera conséquemment d'affirmer, comme le fait la Constitution canadienne, que le pays est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit, référence évidente à la divinité unique et transcendante propre au monothéisme. On s'empêchera également de recourir à des tribunaux d'arbitrage religieux dans des litiges de droit familial et successoral, comme on a été tenté de le faire en Ontario. On refusera, enfin, d'enseigner d'un point de vue croyant certaines conceptions religieuses dans les écoles financées par l'État. Par exemple, la prière lue au Parlement d'Ottawa débute par les mots « Dieu Tout-Puissant » et se termine avec « Amen ». À Québec, en revanche, le moment solennel qui précède les travaux de l'Assemblée nationale est un recueillement silencieux. Dans le premier cas, des croyances et un vocabulaire particulier sont insérés dans une procédure officielle. Dans le second, chaque député peut en son fort intérieur réciter ou méditer ce qu'il veut tout en respectant par son silence ses commettants aux valeurs et convictions diverses. Pas de neutralité sans séparation. Et qu'en est-il de la séparation? Il y a séparation entre l'État et les religions si les règles, les personnels et les fonds sont de part et d'autre indépendants et autonomes. Parmi les principales conséquences de ce principe, on ne fera pas de l'appartenance à une religion une condition pour l'attribution de la citoyenneté ou du droit d'occuper certaines fonctions publiques, non plus que l'on subventionnera des enseignements ou des projets religieux, ou encore des espaces à vocation religieuse à l'intérieur des établissements publics. La déconfessionnalisation des commissions scolaires réalisée à la fin des années 1990 fut à cet égard un geste assumé de séparation des institutions religieuses et publiques. Une finalité à honorer en toute cohérence. Si les mesures qui précèdent sont appliquées, alors restreindre le port des signes religieux à titre personnel pour les employés, voire pour les usagers des services publics, apparaît peu nécessaire et même incohérent avec l'objectif de la laïcité. En effet, ceux et celles qui arborent ces symboles le font en raison de leurs convictions profondes. C'est donc restreindre exagérément leur LCR que de les en empêcher. Autant les symboles religieux, patrimoniaux, présents dans des édifices publics d'un certain âge, écoles, hôpitaux, ne nuisent aucunement à la LCR des gens qui les fréquentent, autant un agent de l'État portant un symbole religieux tout en demeurant neutre dans ses paroles et actions n'empiète pas dans les faits sur la LCR d'autrui. Bien sûr, il y aura toujours des cas d'exception, comme pour des raisons de sécurité ou d'identification, mais ceux-ci devraient être examinés à la pièce. Qui plus est, aussi longtemps que les limites de la décence ou de la protection des personnes sont respectées, il s'avère pour le moins délicat de nos jours de dicter aux gens leur apparence physique. Indépendamment de la question de la LCR, c'est la liberté plus générale des individus de tout simplement se vêtir à leur gré qui est en jeu. On interdira le port de la kippa à un professeur juif gêné par sa calvitie, mais lui permettra de porter une casquette. On empêchera l'étudiante musulmane de se voiler, mais laissera tranquille sa voisine qui porte pour des raisons esthétiques un bandeau. Il y a, à la fin, quelque chose d'intenable dans cette volonté d'encadrer l'apparence des gens. D'aucuns rétorqueront que cela cautionnerait le traitement inégalitaire des femmes, ce à quoi nous répondons en soulignant l'absolu devoir pour l'État d'assurer la capacité d'action et le respect de chacune en la protégeant et lui transmettant la connaissance de ses droits, de même que le savoir essentiel à son autonomie intellectuelle, professionnelle et politique. L'État veillera en outre à ce qu'au sein de ses institutions, les différences sexuelles, genrées ou confessionnelles n'entraînent aucun cloisonnement, les gens se devant d'interagir et de se reconnaître comme les membres égaux d'une même communauté politique. Vers un modèle québécois consensuel. En interprétant avec discernement et cohérence la neutralité de l'État, le gouvernement actuel ou celui qui lui succédera mettrait en œuvre une laïcité juste et équilibrée, source d'un consensus social. Consensus d'autant plus souhaité lorsqu'il s'agit de nos écoles. C'était « Une neutralité bien interprétée pour une laïcité équilibrée », un texte de Marco Jean, paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir.
Cette gauche qui creuse sa propre tombe. Un texte de Boucar Diouf, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Si vous voulez bâtir un parti voué à l'autodestruction ou à la marginalité permanente, j'ai une recette pour vous. Commencez par mettre sur les rails politiques une locomotive qui est très campée à gauche. La locomotive sera le moteur du parti, une machine qui permettra à tous les groupes et groupuscules militants, avec une cause à défendre, de venir y accrocher leur wagon et y dérouler leur propre programme. Le train en mouvement devient alors rapidement une succession de monologues qui laissent croire aux occupants de la locomotive que la conversation est harmonieuse. Les mots décolonisation, intersectionnel, racisme, discrimination, inclusion, équité, diversité, droits des autochtones, écologie, altermondialisme sonnent très fort dans le convoi. Évidemment, toutes ces causes sont nobles et méritent d'être mises de l'avant avec discernement pour améliorer nos sociétés. J'ai bien dit avec discernement, car si importantes que soient ces luttes, l'extrémisme militant peut éroder les acquis à l'abri des regards. Autrement dit, une certaine façon de lutter contre les discriminations peut provoquer silencieusement l'effet inverse dans la population. Mais dans cette gauche adepte des contradictions, tout est possible. Ici, on plaide pour l'ouverture et l'unité nationale, mais on fait la promotion de la fermeture communautariste en fragmentant toujours plus la population selon la race, la religion, le sexe, le genre et l'origine ethno-linguistique. Égaré sur cette route des incohérences clientélistes, cette gauche finit par s'éloigner des préoccupations qui ont fait les belles années de ses prédécesseurs dans les démocraties occidentales. Elle perd la capacité de se concentrer de façon prioritaire sur les besoins fondamentaux de la population, ceux qui dépassent les clivages et les revendications militantes, les revendications des différents wagons du train. Le respectable Bernie Sanders a exprimé différemment cette errance pour expliquer la dégelée démocrate aux dernières élections américaines. Ces luttes contre les discriminations peuvent même amener cette gauche à mépriser ou honnir l'identité et les valeurs fondamentales d'une majorité historique. Ce qui est une autre très mauvaise idée. En effet, cette discrimination inversée que cette gauche refuse de voir comme telle accouche toujours d'un repli identitaire qui augmente les vices qu'elle cherche à combattre. Autrement dit, avec le temps, les actions de cette gauche font culminer tous les problèmes sociétaux qu'elle cherchait à améliorer. Autrefois, la gauche travaillait à protéger les masses laborieuses et les minorités sans fragmenter la population de façon clientéliste. Elle luttait contre toutes les formes d'exclusion et d'intolérance. Elle était aussi le lieu de protection des minorités sexuelles contre les dérives de la droite religieuse ou de l'extrême droite. Aujourd'hui, une certaine gauche semble avoir perdu la boule à un point tel que beaucoup de progressistes ne s'y reconnaissent plus. Par exemple, quand on est résolument féministe, comment croire à cette gauche qui pense que le machisme, la misogynie et l'homophobie, lorsqu'ils sont venus d'ailleurs, doivent absolument être mis à l'abri de la critique et de l'indignation au nom des chartes, du relativisme culturel et de l'exception religieuse? Cette gauche semble avoir oublié que l'harmonie dans une démocratie se construit avec l'égalité des droits et non avec l'attribution de passe-droits. Plus ironique encore, cette gauche est devenue, sans s'en rendre compte, un allié des forces dont elle devrait passer son temps à combattre les excès. Je m'explique. Le plus gros prédateur des masses laborieuses et des personnes vulnérables dans nos sociétés, c'est la grande industrie transfrontalière qui ne veut pas payer sa juste part du fardeau fiscal. Comme cette nouvelle gauche, ces multinationales sont réfractaires aux frontières et aux identités. Tout ce qui intéresse ces géants, c'est de disposer d'une main-d'œuvre bon marché qui avance en vagues dispersées. Alors, lorsque cette gauche diabolise toute critique des problèmes migratoires et traite de xénophobes tous ceux qui osent aborder le sujet, le grand capital est content. Même lorsque ce capitalisme propose de décupler les seuils d'immigration, il ne voit pas des gens à aimer et à protéger, mais une main-d'œuvre bon marché. Quand cette gauche prône la fragmentation sans fin de la population selon la race, la religion, le sexe, le genre, la communauté, le grand capital se réjouit aussi. Il se réjouit parce qu'il est bien conscient qu'autant de groupuscules ne feront jamais une conversation syndicale suffisamment solidaire pour la défense de leurs droits communs. D'ailleurs, les syndicats qui se laissent séduire par le modèle du train de groupes militants avancent de la même façon vers un précipice. C'est triste de voir cette gauche creuser petit à petit sa propre tombe. Un trou devenu si béant qu'en Europe, il risque d'avaler une grande partie des mouvements progressistes. Profitant de cette faillite partout en Europe, la droite s'allie avec l'extrême droite et avance vers le pouvoir. La France insoumise, LFI, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce et bien d'autres mouvements appartenant à cette gauche au Danemark, en Irlande, en Allemagne et au Royaume-Uni sont à l'agonie. Aux États-Unis, après la cuisante défaite des démocrates, des langues se sont déliées et demandent à leur formation de résister à un certain militantisme des groupes d'intérêt qui squattent les nombreux wagons du parti. Presque partout en Occident, les forces humanistes et progressistes en arrachent. En ces temps où la crise climatique malmène la planète, même les partis écologistes écopent. Il est vraiment temps que cette gauche révise sa façon de faire de la politique pour ne pas se détruire. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cette citation qu'on attribue à Albert Einstein est au centre des méthodes de cette gauche qui gagnerait à revenir à l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. C'était « Cette gauche qui creuse sa propre tombe », un texte de Boukhar Diouf, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Montréal, De Profundis, un texte de Mathieu Bellil, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. En 2017, dans l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal, Daniel Caron et Luc Leblanc pénètrent dans une petite caverne connue depuis au moins 2 siècles et qui, selon la légende, aurait déjà servi d'abri à des autochtones et de cache d'armes pour les patriotes. Ces spéléologues professionnels ont mené des tests qui leur permettent de croire que la caverne, alors longue d'une trentaine de mètres, est beaucoup plus grande qu'on le pense. Armés de pics et de truelles, ils creusent dans une portion friable de la paroi, agrandissent et prolongent une fissure qui les mène à une découverte extraordinaire, une galerie de plus de 200 mètres, parfaitement droite, dont les fonds sont couverts de fossiles âgés de 450 millions d'années et les hauts plafonds constellés de stalactites. Phénomène inouï, la caverne immense déborde les frontières du parc, se prolonge jusque sous les maisons du quartier environnant. Dans les profondeurs de l'île, se cache un monde noir et secret qui obéit au mouvement millénaire des strates de calcaire et d'argile, loin des vivants. En sortant l'autre jour du cinéma Beaubien, où je venais de voir avec ma blonde La bataille de Saint-Léonard, fascinant documentaire de Félix Rose, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette caverne secrète qui résonnait dans mon esprit comme une allégorie. Cette entaille profonde était à l'image de la crise qui avait creusé un fossé entre les francophones et la communauté italienne à la fin des années 1960, les uns se battant pour l'école française et les autres pour l'école anglaise. Les camps s'agitaient à la surface sans se douter que ce n'était pas seulement la population de Saint-Léonard qui était coupée en deux, mais le sol même sur lequel elle posait les pieds. Tout au long du documentaire, le génie de Rose consistait à multiplier les allers-retours de part et d'autre de la faille, à nous faire découvrir les leaders des deux camps, Raymond Lemieux et Mario Baronnet, engagés dans une lutte sans merci, à donner la parole aux familles encore marquées par la violence du choc. Le travail de la mémoire permettait de rouvrir les vieilles blessures pour mieux les recoudre et les refermer. Au terme de l'histoire, le fossé n'était sans doute pas entièrement comblé. Mais s'il restait une fissure, elle laissait maintenant filtrer un peu de lumière. Quelque chose me dit que Montréal est la ville de toutes les fractures, que le territoire de l'île est traversé par d'innombrables lignes de faille, sociales et économiques, culturelles et politiques. Un peu partout, au fil du temps, des écarts se sont creusés, entre riches et pauvres, entre propriétaires et locataires, entre anglophones et francophones, entre natifs et nouveaux arrivants. Certaines fractures sont discrètes, à peine visibles, tandis que d'autres sont comme des plaies ouvertes. Je pense à cette clôture le long du boulevard de l'Acadie, horrible cassure urbaine qui sépare la ville de Mont-Royal du quartier Parc Extension. Certaines parties de la ville vivent en autarcie, formant des îles dans l'île, Westmount, Hampstead, Montréal-Est. Et je me demande parfois si l'ouest de l'île, déjà si éloigné, ne risque pas un jour de se détacher du reste, comme un continent à la dérive. Mais le problème que je cherche à décrire concerne peut-être en vérité la population entière, si facilement gagnée par le confort du silence et de l'anonymat, moi compris. Certains jours, à Montréal, on dirait que tout le monde est une île. Il y a une scène du documentaire de Rose que je ne peux oublier. Elle concerne Mario Baronnet, arrivé à Montréal au début des années 1960, qui commence tout en bas de l'échelle, dans une section de la carrière Miron qui vient d'être transformée en site d'enfouissement. Son travail? Faire le tri des déchets déversés par le flot des camions entre ceux qui doivent être enfouis et ceux qu'il faut brûler. La journée de travail terminée, Baronnet sent tellement mauvais qu'il n'ose pas prendre l'autobus pour rentrer à la maison. Il choisit de marcher. Si je n'arrive pas à oublier l'image de Baronnet assis au fond du trou, au milieu des déchets, comme dans un pays du tiers-monde, c'est parce que je foule régulièrement le sol qu'il a foulé. Au moment où j'écris ces lignes, je suis assis sur un banc, au sommet d'une petite colline sous laquelle gisent des tonnes de déchets que Baronnet et ses semblables ont triés. Seulement, je ne suis plus dans une carrière, ni dans un dépotoir, mais dans un parc, l'un des plus beaux de Montréal, le parc Frédéric Bach. Le trou a été comblé. Autour de moi, de jeunes arbres se dressent contre le vent et des champs d'herbes jaunies par le froid s'étendent en bandes serrées. Au loin, à gauche, sous le ciel triste de novembre, les tours du centre-ville tracent une ligne discrète qui prolonge le Mont-Royal. Seules les étranges boules verdâtres dispersées dans la plaine me rappellent qu'un vaste réseau de tuyaux souterrains capte le méthane qui s'échappe encore du sol. Qui sait? Peut-être qu'un jour, dans 10 ou 20 000 ans, une nouvelle caverne se sera formée, dont des aventuriers découvriront l'entrée. Soudain, l'image d'un autre homme surgit dans ma mémoire, celle de M. Di Salvo, un ancien voisin aujourd'hui décédé. Je me souviens de son sourire quand je lui parlais avec enthousiasme du parc Frédéric Bach, alors en construction. Ce lieu lui rappelait sa jeunesse, vécue dans les années 1930, alors que ce n'était ni une carrière, ni un dépotoir qu'on trouvait là, mais une forêt, vaste et profonde, où il courait l'aventure, pêchait et campait avec ses amis. À côté de moi, presque un siècle après le passage de M. Di Salvo, des enfants à vélo dévalent une pente en direction du boisé. La boucle est bouclée. Une blessure est en train de se refermer. Malgré tout ce qui les sépare et les isole, malgré la fragilité du sol qu'ils continuent de fouler, les humains, me dis-je, sont encore capables de beauté. C'était Montréal De Profundis, un texte de Mathieu Bellil, paru le 3 septembre 2024 dans la presse.
La CCIM s'engage 8 fois envers la communauté autochtone. Un texte d'Anne-Sophie Paqueté, paru le 17 novembre 2024 dans Le Manique. La Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, CCIM, a participé au Grand Cercle économique des premiers peuples du Québec et elle revient avec 8 engagements concrets pour la réconciliation entre les communautés autochtones et allochtones de la région de la Manicouagan. Citation. Ces engagements sont une preuve tangible de notre détermination à bâtir une économie inclusive et à contribuer à la réconciliation. Fin de citation, a déclaré Jeff Dufour-Tremblay, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. L'événement qui se déroulait à Trois-Rivières a permis d'approfondir la volonté de la CCIM de renforcer les relations économiques et sociales entre les communautés autochtones et allochtones dans la région. Via un communiqué de presse, nous pouvons lire les 8 engagements en question. Engagement pour l'entrepreneuriat autochtone. 1. Créer une table de concertation pour favoriser l'inclusion des entreprises autochtones dans l'économie régionale de la Manicouagan. 2. Offrir des opportunités de réseautage et une visibilité accrue aux entreprises et entrepreneurs autochtones dans le cadre des événements locaux. 3. Créer un programme de mentorat local pour soutenir le lancement et la croissance des entreprises autochtones. 4. Organiser des activités dans les communautés autochtones pour multiplier les occasions de maillage entre les entreprises allochtones et autochtones. Engagement pour la réconciliation. 5. Participer ou souligner les fêtes, journées, semaines ou mois thématiques en lien avec les peuples autochtones. 6. Appuyer la création de lieux de rassemblement culturellement adaptés, conçus en collaboration avec les peuples autochtones. 7. Offrir une formation aux membres, employés et dirigeants de la Chambre sur l'histoire et les réalités des peuples autochtones, incluant les impacts des pensionnats et les droits autochtones. 8. Combattre les préjugés et éliminer la discrimination en favorisant la tolérance, la compréhension et des relations harmonieuses entre les peuples autochtones et la Chambre de commerce. Citation. Nous invitons également toutes les entreprises et organismes de la région à se joindre au Grand Cercle économique pour prendre des engagements similaires et travailler ensemble à un avenir prospère et équitable. Fin de citation, a conclu M. Dufour-Tremblay. C'était « La CCIM s'engage 8 fois envers la communauté autochtone », un texte d'Anne-Sophie Paqueté, paru le 17 novembre 2024 dans Le Manique.